Bonjour, chers étudiants du CIF. Nous nous retrouvons aujourd'hui, non pas de visu, mais uniquement par le son et l'image, puisque le coronavirus nous empêche d'être dans notre salle habituelle. Mais ne vous souciez pas, vous allez réussir à suivre ce cours d'une manière assez facile. Vous ouvrez le dossier image, le PowerPoint. Et à chaque fois que vous entendrez un petit signal sonore, celui-ci, ou mieux, quelque chose comme ça, vous changerez l'image. Et puis de temps en temps, je rappellerai où j'en suis. Et vous trouverez également très facilement les sections de cours grâce au plan. Vous êtes habitué. Le plan s'affiche très clairement régulièrement. Donc voilà, nous sommes dans la seconde partie de notre cours sur le sacrifice de la croix. Nous avons vu premièrement rédempteur, qu'est-ce que ça voulait dire. Ensuite, j'ai expliqué qu'il y avait eu trois grandes contaminations. Premièrement, et c'est tout naturel, le traumatisme de la passion. Ensuite, c'est un petit peu plus embêtant, le juridisme féodal. Et enfin, les fonctions du sacrifice qui traînent un peu dans toutes les têtes, y compris dans l'inconscient, depuis belle lurette. Aujourd'hui, nous allons voir, la messe est-elle un sacrifice? Ce sera assez rapide, mais concis. Puis, une partie assez développée, qui relève à la fois de la théologie et de l'esthétique, et même de la culture générale, voire de l'histoire de l'art, l'histoire de la croix et des crucifiés. Et puis, je finirai par un petit chapitre sur les chemins de croix. Voilà le programme pour ce cours. N'hésitez pas à faire des pauses à chaque fois que je change de chapitre, puisque écouter un cours ou suivre un cours sur écran, c'est évidemment bien plus difficile que de le suivre in situ. Donc, nous en sommes à la quatrième partie de ce chapitre, le sacrifice de la croix. Quatrième partie, la messe est-elle un sacrifice? Vous pouvez afficher le plan sur votre PowerPoint. C'est une histoire en fait d'accentuation, répondre à cette question, la messe est-elle un sacrifice? On ne peut pas dire non, certainement pas. On ne peut pas dire que la messe n'est certainement pas un sacrifice. Tout dépend de ce qu'on entend par sacrifice, ça nous l'avons regardé attentivement la dernière fois. Ces deux images que je viens de vous montrer représentent la même chose, c'est-à-dire une sorte de miracle, d'apparition du Christ pendant la messe. La première est une image pieuse du XIXe siècle, la seconde est un peu plus ancienne. La première insiste sur le Christ mort ou mourant, tandis que la seconde insiste sur le Christ ressuscité, presque dansant, vous voyez, c'est assez singulier. Et dans la seconde, on pourrait dire, oui, peut-être que la messe est un sacrifice, mais enfin, et d'abord, la célébration du don d'un Christ bel et bien vivant, qui se donne en communion. Ne pas oublier aussi que les images assez traditionnelles hein, de l'Eucharistie, mais que nous avons perdues au XIXe, XVIIIe siècle, eh bien, parmi ces images, il y a par exemple celle de l'Annonciation, ce qui est une très belle théologie, puisque l'Annonciation ici sur un tabernacle à Aidé en Bretagne veut dire que le Christ que nous allons communier sous la forme de l'hostie, eh bien, c'est le même que celui qui a fait l'objet de l'incarnation, celui qui est venu en chair et en os, si j'ose dire, parmi nous. Et puis vous avez aussi le Pélican et d'autres images bien connues. Sur cette image, je présente une foule de jeunes en pèlerin au bord du lac de Tibériade pour rappeler évidemment que l'Eucharistie ou la messe, si c'est un sacrifice, dans tous les sens du terme, est aussi et évidemment et premièrement un sacrement pour un peuple et par un peuple. C'est un sacrement de la communion et pour la communion. Donc, je vous propose de répondre à cette question en trois étapes. Il y a des choses que nous avons déjà vues, donc vous ne serez pas perdus. Le texte est un peu dense, c'est la raison pour laquelle, exceptionnellement, je mets dans mon PowerPoint pas mal de textes. Comme ça, vous pouvez le lire et y réfléchir. Je précise également que c'est une approche théologique, c'est une approximation. Il faudrait, pour être plus précis, y passer plusieurs heures. Mais je vous présente là uniquement une sorte de récapitulatif après notre cours de la fois précédente. Sur cette photo, nous avons donc en fond un pélican, qui est également sur une porte de tabernacle, avec le texte, le Christ qui s'offre en sacrifice, en oblation, et ceci en vérité depuis toute éternité. Parce que le Fils, on pourrait dire, la définition, c'est Dieu qui s'offre. Dieu n'est, à vrai dire, qu'offrande de lui-même, offrande de soi, ce qu'on traduit assez souvent par Dieu est amour. Dans la Trinité, le Père et le Fils sont en effet entièrement donnés l'un à l'autre. Nous y avons déjà pas mal réfléchi. Et ce don de l'un à l'autre, qui les fait être ce qu'ils sont, c'est l'Esprit Saint, comme on le voit assez bien sur cette miniature, qui est une peinture assez remarquable, puisque l'Esprit Saint prend enfin une place aussi importante que le Père et le Fils. En fait, dans la Trinité, l'un et l'autre personnage ne sont ce qu'ils sont que par le biais de l'autre, comme un père et sa fille, ou sa fille, ou la fille et son père. Ce n'est que par l'autre, c'est l'Esprit Saint. Ce qui fait un père, c'est donc son fils. Ce qui fait un fils, ce sont ses parents. L'un n'est pas sans l'autre, l'un n'est ce qu'il est que par l'autre. Il donne à l'autre d'être ce qu'il est. C'est donc ça, l'offrande de soi-même. Donc on donne à l'autre d'être. Première étape. Second pas, depuis l'incarnation, en fait, le Fils éternel, entièrement donné au Père de toute éternité, le Fils prend notre humanité. Il vient demeurer chez nous. Mais en prenant notre humanité, il faut comprendre cette expression prendre dans tous les sens du terme, il l'entraîne avec lui dans ce don de lui-même au Père. Et en quelque sorte, il présente au Père l'humanité qu'il a entièrement assumée. Et cela, en cela, il y a offrande, sacrifice, dans ce sens, d'accord. C'est donc la première partie, la partie plutôt de l'offertoire de la messe. Pourquoi dit-on maintenant que par son corps, par son sang, il nous sauve? C'est en effet une expression paulinienne qui amplifie la fonction sacrificielle païenne. J'ai expliqué largement ce que voulait dire le sang. Le sang, c'est la vie, c'est ce qui circule en nous et le don du sang. Quand Jésus parle de ça, c'est d'abord de sa vie dont il parle, avant de parler de sa mort. Mais on peut le dire parce que par sa mort, le Christ nous rejoint jusqu'au bout de la réalité humaine. Dès lors, même ce qu'il y a de plus déshumanisant de notre vie, alors peut être changé en offrande à la suite du Christ. Le Christ le vit, puis s'offre au Père, comme il le fait pour tout de lui-même. Pas uniquement sa mort, ça aussi, nous l'avons bien vu. Mais maintenant, dans cette offrande au Père, il y a nous et nos cortèges de labeur. Mais aussi, il faut évidemment préciser tout de suite que quand le Christ s'offre au Père, nous entraînant avec lui dans cette offrande, il offre également nos grandeurs, nos œuvres et tout ce que nous pouvons faire de bien qui peut nous configurer à lui. Le Christ, qui s'offre de toute éternité, continue à s'offrir au Père, mais cette fois, en quelque sorte, chargé, lesté de notre humanité, qu'il fait entrer en Dieu, pourrait-on dire. Troisième pas, en ressuscitant, le Christ triomphe de ce qui ruinait l'humanité en nous, laquelle était pourtant l'œuvre du Créateur, mais fort dégradée. Et donc il va la restaurer et nous redonne maintenant cette humanité restaurée. C'est donc la seconde offrande, le second sacrifice de la messe. Le Christ se donne à nous, il s'offre. Alors, c'est pas un sacrifice au sens ancien du terme, mais c'est une véritable offrande, un don de ce qu'il est. C'est la communion eucharistique. Et n'oublions pas ce que beaucoup, hélas, au XVIIIe, XIXe siècle, et même avant, beaucoup ont oublié, la messe est aussi, et bien évidemment, et peut-être d'abord, un sacrifice, un sacrement. Oui, elle a un sacrifice, mais elle est d'abord et premièrement un sacrement. C'est-à-dire qu'il s'agit de communier au corps du Christ. Et en cela, il se donne, en cela, il y a sacrifice. Offrande, il faut entendre sacrifice comme offrande. Mais il y a aussi la première partie de la messe qui est une offrande du Christ, une offrande de ce qu'il est. Il nous offre sa parole qui est pour nous un pain de vie éternelle. Il l'a suffisamment dit pour le coup. Ce sont les deux corps de la messe qui nous restaurent, la partie eucharistique et la partie parole. Le troisième sacrement de la présence du Christ et de la restauration de l'humanité, c'est l'assemblée que nous formons tout simplement, c'est la communion au sens de l'assemblée des frères, de l'Église que nous formons avec tous. Donc voilà, pour répondre à cette question un petit peu complexe et un petit peu ambivalente, la messe est-elle un sacrifice? Oui, bien sûr, elle est un sacrifice, mais pas au sens de la croix seule du Christ. Et dans ce cas-là, ce serait non, il faudrait répondre non. Mais oui, évidemment, elle a un sacrifice, puisque Jésus s'offre de toute éternité, son incarnation est aussi une offrande, et ce que nous célébrons dans la messe est évidemment une offrande. Passons maintenant au point suivant. Là, nous allons faire un petit parcours d'histoire de l'art, on pourrait dire, mais de l'art chrétien spécifiquement. Un cours que vous aurez rarement, évidemment, si vous suivez l'école du Louvre ou ailleurs, puisque pour bien comprendre cette histoire de la croix et ses différentes significations, il faut avoir un petit peu l'option préférentielle de la foi. Et donc, avançons dans cette histoire. C'est une partie qui est un petit peu longue, mais vous allez voir, fort intéressante. Ne perdez pas de vue que je parle bien toujours, non pas d'histoire de l'art, mais toujours de théologie. C'est comme ça qu'il faut bien comprendre ça. Alors, il y a trois bipolarités. On peut d'abord dessiner deux grandes périodes. C'est ce que fait Sesbué. Il y a, dit-il, le premier millénaire chrétien qui est comme fasciné par l'incarnation. Et en effet, une accentuation au second millénaire, disons à partir du XIIe siècle certainement, une accentuation sur la passion du Christ. Ça, c'est assez vrai de bien repérer ça. Ce qui correspond ensuite à deux mouvements de la Christologie, ce que beaucoup ont appelé un mouvement descendant, Dieu crée, il se donne, il se révèle, et un mouvement ascendant, Dieu devient par ses mérites, ses combats, sa morale, l'homme devient par ses mérites, ses combats, sa morale, grâce à la médiation de l'Église et des sacrements, il devient apte à monter, c'est pour ça qu'on dit un mouvement ascendant, à monter vers sa vocation. Il est en quelque sorte restauré, redressé, remis debout. Ce qui correspond enfin à une troisième bipolarité, et là on peut parler de deux cultures même, la culture orientale, disons byzantine, qui privilégie la méditation du mystère de l'incarnation, de la proximité divine, de la gloire de Dieu, de la résurrection, de ce qu'ils appelleront la déification, et puis l'Occident, le monde catholique romain, qui tend, lui, à préférer plutôt une méditation de la passion avec toute l'iconographie qui va avec elle. Évidemment, c'est à grands traits que je dis ça. En Orient, le Christ Pantocrator nous attire vers sa plénitude. En Occident, la passion du Christ nous aide, par compassion, à lutter ici-bas. D'un côté, on a un Christ cosmique, plus près du Créateur, plus près du Logos. Et de l'autre côté, le côté occidental, un Jésus méritant, agonique, faudrait-il dire, du grec agonos, qui veut dire combat, plus près de la notion de rédempteur. Tout cela est, je crois, assez claire et nous permet de voir qu'il y a en effet dans l'Église des sensibilités, des accentuations différentes et après tout légitimes. Là encore, comme pour les images de la Vierge Marie, puis vous vous souvenez les images de la Trinité, je vous propose quatre catégories. Quatre parce que on pourrait subdiviser davantage, mais ça deviendrait extraordinairement compliqué. Donc je vais vous présenter les premières croix, avec une petite surprise qui nous attend, bien sûr. Ensuite, les Christ offerts. Vous verrez qu'il y a des nuances entre Christ offert, Christ humilié. Et enfin, nous finirons avec les Christ vainqueurs, vainqueurs sur la croix, ce qui est assez étonnant également. Donc, allons-y avec les premières croix. Dans la période des persécutions, c'est-à-dire les 4 premiers siècles, ben, il n'y a pas de croix, tout simplement. Il n'y a pas de croix dans la tradition chrétienne, ni dans l'iconographie, le peu qu'il y en ait. On ne trouve pas de croix. On a mis pas mal de temps à voir dans la croix un symbole de victoire. Et il y avait en effet assez de suppliciés pour ne pas s'en ajouter, si j'ose dire, des croix. Mais la forme même de la croix reste très monumentale. C'est un excellent logo, on pourrait même dire que c'est un logo extraordinaire. Quand elle est placée dans les absides, elle occupe, elle anime très bien l'espace des chœurs et des voûtes. C'est la raison pour laquelle, quand même, on va finir par y venir. D'ailleurs, ça se passe assez rapidement, dès la paix constantinienne établie en 313, quand Constantin pose sur le Golgotha une croix couverte de pierres semi-précieuses. Vous avez ici le plan de l'Anastasis de Jérusalem, le Saint-Sépulcre autrement dit, avec la silhouette de l'architecture actuelle. Et silhouette qui aujourd'hui vient envelopper, vient entièrement recouvrir comme d'un dais le Golgotha. Vous voyez tout à fait à droite, vous avez la croix. Eh bien, Constantin avait posé sur le Golgotha une croix assez monumentale entre l'Anastasis, qui était une rotonde, et un peu plus loin, une basilique. Elle avait cette croix un peu la forme que nous trouvons ici sur cette antique monnaie, qui ressemble beaucoup à la première croix que je vous ai montrée dans cette partie, qui était la croix de Trier en Allemagne. Cette croix va devenir, elle est évidemment très stylisée, elle va devenir l'archétype auquel on se réfère pendant des siècles avant d'oser autre chose. C'est donc principalement cette forme qui va prédominer, pratiquement une croix de procession, on pourrait dire. Ce premier exemple est suivi de celui-ci, qu'on trouve dans un baptistère antique, et c'est en fait une croix déguisée, si j'ose dire, en chrisme. Qu'est-ce que c'est que le chrisme? C'est le chi et le rho, qui sont deux lettres grecques qui donnent Christos. On voit ici, dans ce baptistère, sur une mosaïque, c'est la mosaïque de la coupole, on voit sur un ciel étoilé la main du Père qui apporte une couronne, c'est la couronne du vainqueur, c'est-à-dire c'est une croix de ressuscité. Et donc la croix est au ciel, figuration de l'éternité, de l'immensité, de l'infini, de l'éternel, le ciel. À Rome, vers 420, donc vous voyez, on est vraiment dans l'Antiquité chrétienne, on est à Sainte-Pudentienne, c'est tout près de Sainte-Marie-Majeure, il n'y a généralement personne pour la visiter, je vous conseille d'y aller. On a cette mosaïque également étonnante dans l'abside. C'est très intéressant à plusieurs titres. D'abord, les apôtres sont en habit de sénateurs romains, Pierre et Paul sont couronnés par deux figures allégoriques. Deux femmes, là, que vous voyez, tenant donc une couronne tressée autour de Pierre à droite, Paul à gauche, et elles figurent les églises issues des Juifs et celles issues des païens. Et le Christ siège, bien sûr, sur un trône au centre. Notez qu'il a une tunique dorée et que les deux figures allégoriques de l'église, image du Christ continué, portent le même tissu doré qu'elle. Et ce sont les seules figures qui sont dans ce type de vêtements dorés. Et donc, vous voyez, il y a une sorte de continuation entre l'Église et le Christ. La scène se situe dans une cour intérieure, et on a à l'arrière-plan, en fait, une figure de Jérusalem, telle que Constantin vient de l'aménager en construisant le Saint-Sépulcre. Et on a en 420, le Saint-Sépulcre vient seulement d'être achevé. On le voit d'ailleurs, le Saint-Sépulcre en question, on voit à gauche là une sorte de rotonde, tandis qu'à droite, on voit la basilique, qui était orientée vers la rotonde, et entre les deux, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, hein, et ce qu'attestent bien les textes de l'époque, et ce qu'avère d'ailleurs l'archéologie, on a une toute petite colline, le Golgotha, sur laquelle on voit la croix gemmée, ici très centrale, très surdimensionnée bien sûr, qui vient occuper le centre de la conque de l'abside. Dans le ciel, vous voyez aussi les symboles évangéliques, il y en a deux qui sont masqués par l'arc du XVIIIe siècle, mais on devine très bien. La croix est donc ici une croix de gloire, évidemment, hein, et c'est bien ainsi qu'on va la figurer pendant environ 6 siècles. Un autre exemple à Ravenne, à l'oratoire de Galla Placidia. Sur la voûte, on a un ciel étoilé ordonné autour de la croix. Il s'agit ici de dire le règne du ressuscité sur le cosmos. C'est un thème sur lequel on va revenir avec le baptême du Christ. Le pied de la croix est planté non pas dans l'axe de l'église, mais vers la gauche, c'est-à-dire en fait vers le nord. Donc le pied de la croix vient se ficher dans les ténèbres, emblème donc de la victoire sur la mort et sur le chaos. La croix du Christ ordonne, réordonne le monde et les orbes célestes. Toujours dans la même ville, à Ravenne, allons voir Saint Apollinaire in Classe en 550. Vous voyez, nous avançons un tout petit pas dans la chronologie. On a déjà vu d'ailleurs à une autre occasion cette église. On a le Christ de la Transfiguration qui est figuré par une croix au centre d'un monde nouveau et presque un paradis. Et puis sous la croix se tient l'église encore pérégrinante, figurée par l'évêque et les petits moutons. La croix ici est intéressante. Elle symbolise explicitement le Christ, montrant sa gloire pas encore accomplie. C'est la transfiguration qui fut donnée aux apôtres parce qu'ils viennent d'entendre Jésus leur annoncer qu'il montait à Jérusalem pour y mourir. Et donc, à ce moment-là, il va leur apparaître dans sa gloire pour consolider leur foi devant l'épreuve à venir. Et il montre à ses apôtres la gloire qu'il aura après la résurrection. Nous sommes donc encore une fois en présence d'une croix de gloire. La mosaïque du VIe siècle n'a pas osé représenter le Christ transfiguré, comment faire d'ailleurs. Il a préféré cette croix de gloire. C'est dire combien dans les premiers siècles, celle-ci, la croix, n'est pas pensée par la souffrance du Christ, mais elle est d'abord pensée dans cette vision glorieuse de la résurrection. Il n'y a rien de la croix qui soit exprimée en dehors du ressuscité. Les Christ souffrants viendront, mais plus tard. L'Église qui chemine encore ici-bas est bien dans la même situation que les apôtres au moment de la transfiguration. Nous croyons bien que le Christ a ouvert ce chemin de gloire, mais nous n'y sommes pas encore, et il va falloir monter à Jérusalem. D'où probablement cette mandorle très fermée qui contient le monde céleste comme à distance. C'est-à-dire notre terme, notre destinée, nous est offerte, évidemment, mais pas encore disponible. Voyez, nous sommes encore dans le temps de l'expectatio, de l'espérance et du combat. Passons maintenant à Conques pour voir la différence avec de ces mandorles, hein, avec les tympans romans. Nous, nos tympans romans, avec un Christ en gloire, bien sûr, qui est un Christ pantocrator, est aussi dans une mandorle close. Mais ses mains passent par-delà la clôture pour s'ouvrir largement sous forme de bénédiction. Et ici, le pontife, à Ravenne, je veux dire, le pontife, ce qui lui permet de passer hein, d'un monde à l'autre, du monde de l'accomplissement au monde pérégrinant, eh bien, c'est l'Église que nous voyons figurer par l'évêque Apollinaire. Nous faisons un gros plan sur la croix, et on voit même au centre de cette croix un tout petit Christ, un visage du Christ. Voici un autre exemple, cette fois très innovant. Nous allons à Rome, Sainte-Sabine. On n'avance pas beaucoup dans les siècles, on est sur l'Aventin. À Sainte-Sabine, il y a beaucoup à voir. Ici, c'est la photo à l'intérieur de la basilique. On voit le chœur avancé, les hautes fenêtres en forme de claustra, tout ça a été remarquablement restauré, la marqueterie entre les arcs. Mais ce sont les portes de cyprès qui attirent notre attention. Et elles sont de 430, et ce sont d'énormes vantaux, entièrement sculptés, très bien protégés parce qu'elles étaient dans un narthex clos, donc à l'abri des intempéries. Et nous avons là la première crucifixion que nous connaissons. Mais, comme vous le voyez, elle est bien étrange. À bien y regarder, les trois personnages ne semblent pas fixés en croix, mais flottés. Ils sont comme libres, libérés, quelque chose de la résurrection probablement. Sauf peut-être celui de gauche. Serait-ce donc le mauvais larron ? Tous ont le visage tourné vers la gauche, ici donc vers le nord, monde ténébreux. Le Christ y est tourné pour aller y annoncer la victoire, le bon larron poursuivre le Christ, mais le mauvais larron, par ce mouvement de tête, en fait, se détourne du Christ. C'est donc vraisemblablement, en effet, le mauvais larron qui est à gauche. C'est quand même pas mal. Il a les yeux... D'ailleurs, lui seul, vous voyez, a encore la marque d'une croix assez clairement visible derrière lui, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Tous ont les yeux ouverts, la tête droite, c'est-à-dire la tête n'est pas abandonnée comme dans la position d'un mourant, ils sont vivants, et ils sont, très clairement, à l'abri de toute souffrance. C'est la première fois que l'on sculpte un crucifié. Autant, d'ailleurs, que les découvertes archéologiques nous permettent de l'affirmer. On va peut-être en découvrir d'autres, mais pour l'instant, il y a peu de chances qu'on en découvre, et tous les archéologues sont d'accord. Mais vous voyez bien qu'il y a là qu'expression de victoire et de vie. Même si la gloire est bien sûr plus sobre, c'est le moins qu'on puisse dire, les corps sont dévêtus, mais presque apolliniens. Vous voyez, c'est dans une espèce de presque d'élégance. Enfin, voilà. Donc, c'était ma partie sur les toutes premières croix. Avançons un peu dans les siècles pour le chapitre suivant que j'ai appelé « Les Christs offerts », la représentation, les représentations très différentes d'un Christ offert. Vous allez voir qu'on est encore loin des Christs souffrants dont nous avons l'habitude. Je respecte la chronologie pour vous montrer les croix de plus en plus avec un crucifié. On les voit apparaître donc vers le 9e siècle, mais en voilà une du 12e. C'est au cours du 11e, 12e siècle que vont apparaître petit à petit des Christs dévêtus puis morts. Les crucifiés marqués par la souffrance apparaîtront au siècle suivant seulement, c'est-à-dire pratiquement au 13e siècle. Je les ai donc appelés des Christs offerts parce qu'ils sont souvent représentés comme ici au Puy-en-Velay, avec les mains ouvertes, ouvertes plus que clouées. Vous voyez, il semble qu'il bénisse, qu'il embrasse le monde. C'est un Christ, en effet, offert, très largement ouvert sur nous. On est donc assez éloigné de la théologie du seul sacrifice, pour aller vers l'offrande de Jésus comme vivant, comme bénissant, comme source de vie. Voici d'autres exemples de cette figure qui a eu un très grand succès à la période romane. Je trouve que c'est une très belle théologie. On n'évacue pas la croix, mais on y voit d'abord le don de la vie. Le ministère entier du Christ est don de sa vie, de la crèche jusqu'à la résurrection. Il n'y a pas que la passion. Ses paroles sont esprit, elles sont vie. Sa parole est nourriture, est-il dit encore. Le don de la vie n'est pas tout entier dans la mort. Donner la vie, donner sa vie, ne veut pas d'abord dire mourir, mais s'incarner, prendre chair, enseigner, guérir, être vraiment homme, pour celui qui est vraiment Dieu, veut donc dire aussi mourir. Ça fait partie de notre humanité et donc de la sienne. C'est notre humanité qu'il est venu vivre, et donc notre mort aussi. Mais ces croix, nous sommes au XIe siècle, expriment bien mieux qu'il est don de vie. Ici, le vêtement est fait d'étoiles. Le Christ Seigneur a le cosmos pour parure. Voilà ce que ça veut dire. C'est encore un beau point de théologie. La création, elle aussi, est destinée à participer à la gloire du ressuscité, comme elle est, elle aussi, habitée par le Logos créateur. Vous observez également que le visage est étonnamment vivant, presque souriant. Il est ouvert, il est bienveillant. Un autre, du même genre, qu'on trouve au musée de Catalogne à Barcelone, avec un vêtement là aussi somptueux, qui est évidemment pas, il faut le préciser ici, qui est évidemment pas la tenue des crucifiés. Les crucifiés, vous pensez bien, étaient dépouillés de leurs vêtements. D'ailleurs, l'Évangile le raconte bien. Ici, c'est même un très beau tissu damassé qui est réservé aux princes. Et la signification de ce type d'iconographie, c'est tout simplement que le Christ est Seigneur et que sur la croix, il vient accomplir sa seigneurie. Donc dans la croix, il y a déjà la résurrection. Mais on voit quand même aussi des suppliciés, si l'on peut dire, parce que sur ce Christ de Saint Damien, devant lequel Saint François s'est converti, dit-on, est entre l'art d'Orient byzantin et l'art d'Occident. Ce qui vient d'Orient, ce sont toutes les petites scènes qui ornent l'ensemble. Par exemple, ici, on voit au zénith de la croix, on voit une ascension, ascension-bénédiction des apôtres, par le Christ ressuscité. Ce qui donne le ton de l'ensemble, c'est ça qui coiffe la croix. Donc c'est évidemment d'une résurrection dont on nous parle. Il s'agit bien sûr d'une victoire. D'ailleurs, la forme du corps du Christ et son visage le disent bien. Une autre petite scénette, ce sont les femmes qui sont présentes au pied de la croix avec Saint Jean. Et ici, on voit même Saint Joseph d'Arimathie, celui qui viendra récupérer le corps du Christ et offrir son tombeau. Vous voyez que le corps du Christ, qu'on voit très bien ici, n'est pas du tout un corps souffrant, hein, mais très stylisé, très épuré, très ressuscité. Le Christ est très droit, il est vainqueur, la souffrance l'a quitté, et son visage est d'une très grande paix. Allons voir un autre du même sort, du même genre, avec peut-être un visage un peu plus sévère, à Chérier, en France, près de Roanne. C'est au nord-est de Thiers. Il y a là aussi un de ces crucifiés du XIIe siècle qui mérite lui aussi un détour. Et il mérite un détour parce qu'il est couronné. Mais non pas par la couronne d'épines, mais d'une couronne de prince. Et s'il faut compléter ce petit travail iconologique du couronnement, allons voir le Christ Pantocrator de Moissac, qui lui aussi est couronné. Mais si vous regardez bien, c'est une couronne très étrange, c'est une couronne carrée. Eh bien, le carré, dans la symbolique romane, c'est le cosmos. Encore une fois, nous voyons que le Christ est couronné du cosmos, le cosmos transfiguré aussi, le cosmos donc qui est appelé à participer à la gloire du ressuscité. tandis qu'à Chérier, c'est la simple couronne des Carolingiens, vous savez, un anneau de métal, comme Charlemagne le portait, paraît-il. Allons au Louvre pour voir cette extraordinaire sculpture d'un Christ mort. Voilà, c'est la première fois, on est à la fin du XIIe siècle, qu'apparaît un Christ, cette fois-ci mort, avec les yeux clos, le corps affaissé, le visage qui tombe. Mais même ce Christ mort est d'une stupéfiante beauté apaisée. Voilà donc ce que j'appelle les Christs offerts. Vous voyez qu'il y a là quand même une belle série. Nous allons voir maintenant les Christs humiliés. Les siècles qui suivent le XIIIe siècle vont voir des crucifiés souffrants se multiplier jusqu'à tout envahir. D'abord en Occident, puis, quoique plus discrètement, en Orient, comme sur cette icône du XIIIe siècle. Ça correspond au succès des explications du sacrifice que j'exposais la dernière fois. Vous vous souvenez, celle de Saint Anselme, où la souffrance prend une sorte de valeur de négoce dans le coût qu'il faudrait payer, vous vous souvenez. De plus, ces images vont avoir aussi un grand succès, parce que le peuple qui trime se sent rejoint dans ses souffrances, par cette souffrance. Et donc, ce mouvement de compassion dans les deux sens du terme sera décuplé avec les grandes pestes qui vont bientôt frapper l'Europe périodiquement, XIIIe siècle et XIVe siècle. Et enfin, le succès de ce type d'iconographie doloriste et dramatique est dû au fait qu'à l'époque, la messe est expliquée comme un spectacle, un mystère, disait-on alors, et c'est très souvent un mystère de la passion du Christ qui est représenté. La messe est donc la passion du Christ. La messe n'est plus un sacrement, mais un sacrifice uniquement. Il n'y a plus, pendant la messe, à laquelle les gens assistent sans y participer, il n'y a plus d'enseignement, par exemple, de la parole de Dieu. On ne lit même pas pour le public la parole de Dieu. Il n'y a d'ailleurs pas de communion eucharistique non plus. C'est très étonnant de se souvenir de ça. Si le pape Innocent III, qui est mort en 1216, impose une communion annuelle, mais annuelle, pour tous les fidèles, c'est bien parce que la communion sacramentelle avait complètement disparu des pratiques. Et c'est la raison pour laquelle il dit il faut au moins communier une fois par an, sinon on n'est plus chrétien. Et donc, du fait de ces trois raisons, les explications du sacrifice, les mystères et l'explication de la messe, le corps de Jésus crucifié va être montré de plus en plus avec une sorte de réalisme esthétisé. Byzance connaît le même mouvement, puis en restera là. Tandis qu'en Occident, la tendance doloriste, même spectaculaire, va s'affirmer de plus en plus. L'icône byzantine gardera toujours un certain irréalisme, comme vous le voyez bien sur cette image, qui n'est absolument pas correctement peinte. Le corps du Christ n'est pas du tout réel, son visage n'est pas proportionné, le cou est mal placé, enfin vous voyez, les bras sont filiformes, à la différence de la ceinture abdominale exagérée. Enfin vous voyez bien, tout ça est très très stylisé, c'est une sorte d'irréalisme, c'est-à-dire on veut vraiment spiritualiser cette image. Quand même, à la limite, on signale la plaie du côté, comme ici sur cette icône contemporaine. Tout le reste est très stylisé, le supplice est en quelque sorte spiritualisé. En Occident, on n'a pas échappé à ça non plus. Par exemple, un qui fait ça remarquablement, c'est Fra Angelico. Alors lui, il garde un certain réalisme dans les formes, mais c'est extraordinairement stylisé, très épuré, il n'y a pratiquement pas de souffrance. Observons maintenant ces Christs crucifiés en Occident. Il y a deux tendances qui vont être présentes et qui vont cohabiter. Je les fais figurer ici par ces deux modèles, disons. Pour faire vite, vous avez d'un côté une certaine paix de l'interprétation, si vous voulez, ce que j'ai mis à droite avec Velázquez, avec un corps relativement pacifié, pas torturé, et de l'autre, quand même, la dureté de la violence. Parfois d'une manière très, très crue, très sanguinolente, très violente, quoi. Donc deux tendances. D'une part, le fait de styliser l'événement, le corps, les blessures, jusqu'à faire complètement disparaître tout le côté torture, douleur, blessure. Sur ce corps, par exemple, de Goya, au XVIIIe siècle, ce crucifié est un corps en pleine santé, lumineux, aucune blessure. Il fait la pose, hein, comme chez le photographe. Seul le visage semble exprimer quelque chose proche de l'épuisement extatique. Encore que Goya ou Velázquez fassent faire à la peinture religieuse un très grand progrès. Il se décale fortement de ce genre que j'appelle le style anatomique. Il y a chez Goya presque une militance en rejetant ce réalisme, voyez, académique des corps très puissants, très forts, très vigoureux, mais ce type d'image rend pratiquement fausse la réalité du crucifié. Ici, Vouet, hein, en 1636, donc on est un peu plus d'un siècle avant Goya. Vouet est français, mais il peint déjà dans le style baroque italien. Ce qu'on voit très nettement sur cette image d'un homme exagérément musculeux, qui ressemble plus à une planche d'anatomie qu'à un Jésus crucifié. Alors, je prends des peintures de périodes différentes. Hein. Je fais un petit peu un pêle-mêle parce que je ne vous fais pas un cours chronologique. Ce que je veux, c'est montrer les types d'images plutôt que les périodes. S'il y a fort nombreuses des crucifixions stylisées, il y a d'autre part des images plus réalistes, même plus réalistes que celle-ci, hein, de Vouet, qui l'est assez peu, qui donnent à méditer de façon ostentatoire la souffrance du Christ. Et ce que nous allons voir, par exemple, à Perpignan, quelque chose d'absolument remarquable, on remonte encore dans le temps, vous voyez, on est entre 1340 et 60, on ne sait pas très bien, commande est passée suite aux grandes épreuves subies par la population, maladies, épidémies, famines, de présenter à la piété populaire un Christ qui rejoint ces épreuves-là. Tout ce qui est subi peut être ressuscité. Le Christ est venu re vous rejoindre. Oui, nous allons vivre. Telle est la théologie de cette commande. En fait, ça va beaucoup se développer en Allemagne, à Köln en particulier, mais cette iconographie va petit à petit se répandre partout. Elle est assez juste d'ailleurs. Mais vous voyez que sur cette sculpture de Perpignan, qu'on appelle le Dévot Christ, le style est quand même à la fois réaliste, très expressif et cependant très stylisé. Parce que si vous regardez bien, on voit bien que les côtes du torse ne sont en rien anatomiques, si je puis dire, et le même graphisme se prolonge sur le pagne. Et donc, vous voyez, une recherche stylistique qui rend abstrait pratiquement ce corps. Et pourtant, c'est terriblement expressif. On voit la douleur, la perte, même, on peut presque dire, la destruction, en quelque sorte, qui est rendue très visible dans cette expressivité très réussie. Un sommet va être atteint dans ce style avec le retable d'Isenheim, qui est peint par Grunewald en 1515. C'est tellement réaliste que c'en est presque écœurant, violent. On a des expressions de ce genre d'ailleurs dans l'art contemporain. Tout chez Grunewald est puissant. Il ne nous laisse pas tranquille. Nous sommes dans un hospice de mourants qui sont en train de mourir dans des souffrances dingues puisqu'ils sont atteints de la fièvre des ardents qui est due au seigle. La croix du Christ prend sur elle, si j'ose dire, ses souffrances. On y devine, en effet, une brûlure intérieure, un décharnement des corps. Et ils avaient le sentiment d'être comme piqués, vous voyez, de coups de couteau, disait-on. C'est la raison pour laquelle ce corps est couvert d'épines. Enfin, il y a une espèce de réalisme, encore une fois, très hard. Nous revenons à une théologie descendante, et non plus, évidemment, celle des mérites de la passion, hein, qui viendrait satisfaire un rachat. C'est le Christ qui vient, qui descend dans les souffrances humaines. Je vous présente ici, vous savez, l'interprétation qu'on a fait, assez remarquablement d'ailleurs, Abel Abdessemed. En 1995, il y avait une installation à Colmar de ces interprétations du Christ souffrant. Dans le sens de ces Christs humiliés, je voudrais vous présenter encore trois genres, ce que j'appelle le réalisme non doloriste, puis la mise en scène de la croix, et enfin la nudité du Christ. J'ai choisi pour le réalisme non doloriste cette peinture de Cranach que je trouve finalement assez juste. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, ça va peut-être vous étonner, mais parce que les corps sont des corps, enfin. Ouais, ce ne sont pas des reproductions des cahiers de dessins anatomiques de l'Académie. Ouf, quoi. On a des corps un peu flétris, ventripotents, mous, enfin des corps comme tout le monde. Le Christ fait peut-être un peu exception, mais c'est parce que la position de face facilite l'allure plus élancée. Mais pas grand-chose à voir avec les corps stylisés de l'époque précédente, ni avec ceux du baroque puissant, musclé et fiévreux. Bien qu'il y ait quelque chose de drôle dans cette scène où le commanditaire se fait représenter tel le centurion, le panache de sa coiffure est repris par le flottement du vêtement de taille du Christ. Cranach a fait plusieurs fois le même thème. Je vous présente une deuxième manière de peindre la même scène. Il y a un peu plus de monde, mais on a toujours notre centurion, les trois crucifix qui se ressemblent beaucoup avec le premier. Le mauvais larron est toujours le même. Hein. C'est un homme ventru, roux, qui détourne le regard. Mais sur le premier tableau que je vous présentais, que revoici, c'est très intéressant parce que son regard est bien plus expressif et évidemment, c'est nous, c'est sur nous qu'il jette un regard furibond. Et donc nous sommes littéralement interpellés, vous voyez, par ce regard presque grotesque du mauvais larron. Ensuite, après ce réalisme non doloriste, voyons maintenant les crucifixions avec une mise en scène extraordinaire de la croix. Et j'emprunte à Tintoret, à Venise, à la Scuola San Rocco, et nous sommes en 1565, soit 10 ans après le retable d'Isenheim. C'est en vérité un très grand format. Hein. La peinture occupe tout le mur d'une vaste salle, soit 5 mètres de haut sur 12 mètres de large. C'est un record. On voit bien que ça grouille tout autour, parce que c'est le salut du monde dont il est question. Et donc il faut qu'il y ait du monde. Alors voici quelques détails de la peinture. Vous avez premièrement le groupe de droite, où on voit la crucifixion d'un des larrons, avec, vous voyez, c'est vraiment ces personnages mêlés sur plusieurs plans. Hein. Regardez les chevaux, on ne sait plus très bien où est le relief. Les personnages sont toujours dans des postures très étranges, hein, avec le Tintoret. Et de même, les couleurs sont toujours très vives, très vigoureuses. Voici le groupe au pied de la croix. Pareil, hein, entremêlé des corps, on devine Saint Jean, on devine Joseph d'Arimathie avec sa barbe, et puis les femmes, le corps des femmes qui forment comme un groupe compact. il faut quand même à nouveau admirer la force des couleurs, des formes, l'innovation. Enfin, Tintoret est un grand inventeur. Au centre, donc, le Christ crucifié, sans douleur, tout en puissance radieuse. J'ai presque l'impression de voir ce que va amplifier Dali en 1951 et qui, vous savez, font le fond de mon plan. Mais on voit bien, hein, le Christ surplombe, il s'incline, il vient. Il est tout en force, tout en puissance, tout en radiance, pourrait-on dire. Avec le recul, on voit très nettement que le vide, il y a du vide autour de lui, une certaine vacuité autour de la croix qui en fait le centre du monde qui grouille. Jésus rayonne une lumière qui se projette jusqu'au sol, zone de lumière autour de laquelle les personnages grouillent. Et enfin, pour finir, j'aborde la question de la nudité. Voyons ces crucifixions très étranges, très fascinantes. Il est plus que probable que les suppliciés l'étaient nus. Ils n'étaient pas habillés. Vous pensez bien que les Romains n'avaient pas ce genre de délicatesse. Mais évidemment, c'était un peu difficile dans l'art des églises de représenter le Christ ainsi. Certains l'ont fait, et par exemple Michel-Ange, avec son petit crucifix arrivé récemment au Louvre, et en 1494, il réalise celui-ci pour Florence. C'est stupéfiant parce que Michel-Ange a 18 ans quand il fait ceci. Remarquez, il en avait guère plus quand il a fait la Pietà. Le Christ fait 1,50 m de haut. Quand Michel-Ange propose ce crucifié, eh bien, faut pas vous en étonner, tollé général des bonnes gens quand ils virent Jésus nu. C'est humiliant, protestèrent-ils. Ah, parce que la crucifixion ne l'était plus probablement pour eux, humiliante. En effet, à force d'esthétisme, les croix étaient devenues un décor sur cadre et fond de velours. Mais ce n'est évidemment pas l'intention de Michel-Ange d'heurter les bonnes gens, autant que je puisse en juger, bien sûr. Sa volonté est de revenir à une véritable expressivité théologique. Alors je vous propose trois méditations rapides. Michel-Ange montre Jésus comme il est né, en vérité, nu. De là à penser déjà à la nouvelle naissance qu'est la résurrection, il n'y a qu'un pas qu'il nous faut franchir. Michel-Ange exprime quelque chose de la résurrection. La résurrection n'ôte pas les plaies du Christ. Cette résurrection de Florence reste une mise en croix, mais d'une étonnante paix, d'une totale simplicité, c'est le moins que l'on puisse dire, d'une totale offrande de soi. Sans triomphe, sans gloire, apparaît la résurrection qui préfère sourdre que tonitruer, si j'ose ainsi m'exprimer. Deuxième méditation, hein, est-ce là aussi une façon d'insister sur l'humanité tout entière de celui qu'on nomme maître et seigneur au risque du docétisme, vous savez, cette hérésie qui niait la vérité de la corporéité du Christ. Ah ben, mais Michel-Ange, lui, il va la dire, cette vérité de la corporéité du Christ. Le Christ est vrai Dieu, vrai homme. Et puis, troisième méditation, Michel-Ange montre Jésus faible. Dieu sait que cet artiste sait peindre des hommes musculeux et puissants. Il en a fait, il en a tartiné, si j'ose dire, la chapelle Sixtine. Mais ici, c'est un corps faible, pas chétif, mais fragile. C'est une sorte de stupéfiante innocence qui est ainsi traduite. Il est l'innocent par excellence. Nous venons de voir donc ces trois catégories, hein, et il faut ajouter à propos de cette dernière catégorie sur la nudité du Christ que nous n'avons pas le temps de prêter attention aux pudibonds qui aiment s'effaroucher, croyant que leur vertu serait au prorata de leur rageuse protestation. D'ailleurs, en parlant de rageuses protestations, voici encore une peinture, cette fois-ci contemporaine, à propos de la nudité du Christ. Nous sommes au XXe siècle, dans cette œuvre de Renato Guttuso, tout est nu, mais d'une nudité qui exprime la violence, l'animalité, la bestialité des corps torturés et des corps vigoureux des deux soldats comme des chevaux. Crudité, aurais-je dû dire. Crudité des corps, crudité des couleurs. Étrange couleur, hein, comme vous voyez, avec un cheval bleu, un corps rouge, et étrange nudité, à vrai dire. Mais c'est parce qu'il a voulu exprimer la vérité toute crue, ils l'ont crucifié. Et ça, c'est stupéfiant, quoi. Et c'est ça qu'il veut montrer avec cette espèce de brutalisme. Le peintre a lui-même expliqué que cette nudité rend la scène atemporelle. Ce n'est pas jadis, du temps des Romains, avec leurs uniformes, qu'on fut capable d'une telle horreur, mais bien de tous les temps. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas identifier de période, vous voyez, dans ce parce que pas de vêtements. Le tableau fait d'ailleurs 2 mètres sur 2, et donc les corps sont pratiquement grandeur nature. Alors évidemment, ça heurte pas mal. Ça, c'est sûr. Donc, je me permets également de vous présenter ici une petite aide visuelle. Tout d'abord, côté gauche, on peut couper en deux verticalement le tableau, et côté gauche, on a la force, l'animal, la puissance du soldat, un des larrons. C'est lui que semble d'ailleurs observer le cavalier. Les trois verticales des crucifiés. Étrange alignement et de trois verticales, et aussi, c'est le moment de s'étonner, étrange pudicité du peintre quand même. Le Christ, lui, n'est pas nu, de lui, on ne voit d'ailleurs pas grand-chose. Hein. Au centre, on a le Christ qui forme comme une espèce de colonne de lumière, le Christ, Marie-Madeleine avec ce drap blanc, qui n'a pas d'autre fonction que de masquer le corps de Jésus, ou bien, indique-t-il, le mouvement de lumière vers le ciel. En tout cas, c'est une colonne de lumière au centre de la toile. Le corps de Marie-Madeleine est d'une blancheur virginale, ose-t-on dire. Elle n'est donc pas tout à fait ce qu'on croit. Et là, quelque chose d'en effet un peu provocateur. Un autre larron, par contre, est très coloré. La barre de sa croix masque d'ailleurs en partie le corps du Christ, décidément le plus absent, hein, ou du moins le moins saisissable. C'est ça ce qu'a voulu faire le peintre. Le Christ est le moins saisissable, le moins visible. Et ce larron, est-il le bon, est-il le mauvais, j'en sais rien. En tout cas, il a un corps rouge, terreux. Est-ce qu'il vient là figurer l'Ancien Testament, vous voyez, l'Ancien Adam, dans ce face-à-face avec le Nouvel Adam, Ancien Adam. C'est probablement quelque chose de ce genre. Et en bas, dans cette mêlée, vous avez une seule des femmes qui est vêtue. Voilà, c'est évidemment la Vierge Marie. Donc voilà un tableau, vous voyez, un peu rude, vous voyez, coloré, mais je crois encore d'une bonne méditation théologique. Nous en avons fini donc avec cette recherche des Christs humiliés. Passons maintenant, après les Christs humiliés, au Christ vainqueur. Beaucoup de croix marquent la victoire plus que la passion. Nous l'avons vu dans la première de mes catégories qui décrivait les premières croix dans les premiers siècles. J'y reviens, de l'Antique jusqu'à nos contemporains, avec 12 œuvres. Mais je vais les présenter rapidement, je vais faire bref. Tout d'abord, une page d'un évangéliaire de l'an 1000. Le Christ est vêtu, on a déjà vu ça, mais surtout, nouveauté, il est sur une croix verte. C'est un symbole qui sera très présent dans l'iconographie chrétienne. La croix est un arbre de vie. Et donc on la peint en vert, une façon très explicite de voir, de lire la résurrection et l'offrande du Christ comme source de vie. Au XIIe siècle, voici la mosaïque de Saint Clément de Rome. Là aussi, La croix est source d'un foisonnement incroyable de vie. Une pampre de vigne couvre toute la voûte de l'abside. La croix est plantée dans un massif végétal dont il est la source. Dans les volutes de la pampre viennent vivre des oiseaux, des personnages et même quelques symboles de la résurrection. Le paon, là, par exemple, vous le voyez en bas. Et puis un peu au-dessus, vous voyez une corbeille de fruits avec une grenade et un fruit qui symbolise la résurrection parce qu'il est plein de vie, il est tout entier rempli de vie. Et puis il donne un jus rouge, vous voyez, comme le sang. Donc c'est un des symboles classiques de la croix vu sous son angle résurrection. Au pied de la croix, on a quatre fleuves d'eau vive auxquels viennent s'abreuver les serres altérées du psaume. La croix elle-même est couverte de 12 colombes, symbole et de l'Église et de l'Esprit Saint. En principe, les deux vont bien ensemble, hein, l'Église et l'Esprit. C'était ma deuxième image. En voici une troisième. Elle est bien connue, ce sont les vitraux de Chartres. Et là aussi, une immense croix verte s'impose partout. Partout dans les vitraux de Chartres, la croix est verte, parfois bordée de rouge, comme ici. En voici une deuxième illustration. Le panneau juste en dessous, la descente de croix, avec de part et d'autre le sacrifice d'Isaac, ou du moins le sacrifice d'Abraham. Voici un calvaire breton. On est au XVIe siècle. Il y aurait beaucoup à dire sur les calvaires bretons, mais vous ne verrez que ça. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est cette croix qui bourgeonne. C'est bien curieux, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. La croix de vie, là encore, faute de la peindre en vert, eh bien on la fait bourgeonner. L'idée est bonne, et on l'a déjà eue bien avant, hein, par exemple sur ce manuscrit bavarois du Xe siècle, hein, où on voit une espèce de croix vraiment qui éclate en vitalité, hein. En viridité, dirait-on, avec Hildegard von Bingen, c'est-à-dire la vie, quoi, la vie qui croît, comme les herbes, comme la verdure. Au XXe siècle, beaucoup d'artistes se sont essayés à dire la même chose. En voici un, je vous ai donné plusieurs exemples, hein. On a le Christ bras ouverts, mains libres, qui semble embrasser, inviter, bien plus qu'un Christ cloué. Vous voyez, c'est une sculpture en bois de Alban de Cacré. Ou cette croix, alors archi simple, hein, très répandue sur le diocèse de Nanterre, Stéphane Chambry de Boulogne-Billancourt. Cette croix a été adoptée par le diocèse de Nanterre pour ses rassemblements. Elle est en effet d'un design très épuré, est assez remarquable dans la conjugaison de la résurrection qui vient ouvrir la croix. Un autre artiste, Augustin Frison Roche, et qui est né en 1987, tout ça ce sont de jeunes artistes, qui réalisent, enfin des jeunes artistes encore jeunes, disons, qui réalisent des croix très explicites, si j'ose dire. Je vous en montre deux du même artiste, celle-ci, et avec un manteau blanc, quelque chose de très... En fait, tout est résurrection dans cette croix, ainsi que dans celle-ci, avec même le triomphe d'un vêtement rouge. À Berlin, à côté d'un monastère ruiné, nous avons une très puissante statue en bronze qui montre le Christ se dégageant de la croix et de la couronne d'épines. Et dans une espèce de mouvement de course. C'est une sculpture due à Fritz Kremer qui fait souvent des choses assez dures, assez lourdes. Et ici, nous avons en effet, au pied des ruines, comme le jaillissement de la vie, quoi, comme s'il fallait se dégager des ruines. Il s'agit bien sûr des ruines des bombardements de la dernière guerre dont Berlin a beaucoup souffert. Voici encore... c'est mon arrière-dernière visite, c'est à Rome, les portes monumentales en bronze de Sainte-Marie-des-Anges. Tous les vantaux des portes ont été faits par le même artiste, qui est Igor Mitorash, qui est très spécialisé dans les sculptures à l'extérieur, des sculptures urbaines. Ici, il fait en 1984 ses portes, et je vous présente une porte qui s'appelle la porte de la résurrection. C'est en effet très clair. La résurrection nous ouvre les portes de la vie, mais le corps du Christ qui est sur cette porte est vivant. Il est un rien hellène, hein, hellénistique, et la croix reste en lui comme une empreinte en creux, presque une déformation ou une transfiguration du corps. Son corps, le corps de l'Église, en est à jamais marqué de cette croix, de cette ombre de la croix. Il n'empêche que c'est un corps victorieux qui vient se dégager même de l'épaisseur de la matière. Et pour finir, dans la magnifique église construite par Eiermann en 1962, l'église du souvenir, nous voyons un Christ ressuscité, sans croix, tout en gloire, naissant là, dans l'obscurité de cette église dont les vitraux sont de Gabriel Loire, l'artiste bien connu de Chartres. Karl Hemeter, qui a fait cette croix, a fait en fait un ressuscité d'abord qui prend la forme de la croix. Voici donc pour ce petit parcours à travers l'histoire de la représentation de la croix. Je voudrais maintenant finir ce long chapitre de méditation sur la croix du Christ avec une petite question sur les chemins de croix. Voici, dans le cadre de cette réflexion sur la croix du Christ, je vais maintenant orienter nos observations sur le chemin de croix comme une question. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Il s'agit de comprendre pourquoi les chemins de croix dans nos volumes architecturaux, à l'intérieur de nos églises, sont un bug. C'est une mécompréhension quand ils viennent orner les murs de nos églises. Je vais vous expliquer ça. En trois parties. D'abord, l'histoire de la dévotion, et qu'est-ce que c'est que les croix de consécration, puis je vous donnerai quelques exemples pour finir. Donc, allons-y avec l'histoire de la dévotion du chemin de croix. Ce que vous voyez assez souvent dans vos églises, ces stations du chemin de croix de Jésus, sont une invention récente et à vrai dire, invasive. Ça date du XVIIIe siècle et surtout du XIXe. Mais c'est en Terre Sainte que les franciscains ont inventé, probablement au XIVe siècle, le chemin de croix. Alors, dans les rues de Jérusalem, vous voyez ici une station, ce qui signale une des stations des 14 stations de Jérusalem. On a à Jérusalem, vous le voyez sur ce plan, on voit sur ce plan la forteresse des Romains qui étaient à l'angle de l'esplanade du Temple. C'est probablement de là qu'est sorti Jésus pour aller au Golgotha, que vous voyez, colline du Golgotha, vous voyez, à l'extérieur de ce qu'on appelle là sur le plan la ville nouvelle, mais c'est la ville nouvelle du temps de Rome, bien sûr. Aujourd'hui, la ville a pris beaucoup plus d'importance et le Golgotha, c'est-à-dire aujourd'hui l'église du Saint-Sépulcre, n'est plus en dehors des murs, bien sûr. Voici une autre carte où vous voyez la situation actuelle avec les murs de Soliman et le chemin de croix qui est légèrement tracé en bleu. Donc les franciscains inventent ce chemin de croix qu'ils appellent la Via Dolorosa. Elle dispose de 14 stations de méditation sur 400 mètres. C'était une manière, en quelque sorte, originale d'animer le pèlerinage en Terre Sainte. Ça prenait vie, quoi. C'est-à-dire le fait de mettre ses pas dans les pas du Christ rendait efficace ce pèlerinage. Puis vient l'idée de faire ce pèlerinage, mais chez nous, chez soi. Tout le monde ne peut pas aller en Terre Sainte, hein, comme on le voit dans cette rue de la Via Dolorosa. C'est cher et c'est même encore assez dangereux. Alors, Les Luxembourg, puis la dynastie des Luxembourg, puis celle des Habsbourg, vont créer de véritables chemins de croix dans les forêts, dans les paysages, aux alentours des villes et villages, et ça depuis le XVe siècle. L'Allemagne en particulier, qui connaît un vrai succès pour cette dévotion. Les Allemands encore aiment beaucoup se promener dans les forêts, et donc elles étaient équipées, peut-être même sanctifiées par ces chemins de croix. De même, en Espagne, on a un cas typique et assez original. Dans la ville de Séville, un des rejetons de la famille d'Enriquez Ribera, il s'appelle Fadrique, de retour de Terre Sainte, décide de retracer dans sa ville, donc dans les rues de Séville, un chemin de croix à l'échelle de ce qu'il a, de ce qu'on lui a montré à Jérusalem. Donc un parcours de 400 mètres à peu près. Il fait partir de chez lui le chemin de croix. Et donc dans cette cour, le chemin de croix commence, et même il commence au prétoire, c'est-à-dire dans la maison, la salle de justice de Pilate, et sa maison d'ailleurs prend le nom de maison de Pilate. Et puis ensuite, dans les rues environnantes, on peut se promener, faire un petit pèlerinage. Il y a les rues alentours sont nommées d'ailleurs rue de la Station, la station du chemin de croix sous-entendu, ou bien rue Sainte-Véronique, etc. On en trouve encore aujourd'hui les traces donc dans la toponymie. C'est ainsi qu'à environ 400 mètres, on a la place du Golgotha. Aujourd'hui, elle a été renommée la place Santa Cruz, qui a donné son nom au quartier tout entier. Voici cette ravissante petite place, et au centre, il y a une croix qui a été réinstallée au XIXe siècle. C'est ainsi que se développe donc cette coutume des chemins de croix dans les campagnes. Ici, dans l'île, à l'île d'Elbe, vous voyez cette espèce de forme là, recouverte de ciment, à l'intérieur de laquelle il y a une niche pour une station du chemin de croix. C'est la même idée de faire un pèlerinage autour d'une méditation de la Passion. Et donc, on va avoir ici en Bavière, non pas 400 mètres, vous voyez, 100 mètres, avec des petites stations sur la crête d'une colline. C'est évidemment très beau. Et donc, vous conjuguez la méditation de la beauté du paysage avec le drame de la Passion. De même avec les calvaires bretons, qui étaient également dans le même but, faire réaliser un petit pèlerinage autour de la Passion du Christ, mais chez soi. Mais petit à petit, hélas, la paresse, il faut bien le dire, va rapatrier ses chemins à l'intérieur des églises. Tant et si bien qu'au XIXe siècle, chaque église et même chaque chapelle a son chemin de croix. Non plus à l'extérieur, sur les chemins et dans les forêts, comme pour sanctifier le cosmos, mais à l'intérieur des églises. Il y a une espèce de repli sur soi de la piété populaire. Et ceci, il faut le dire tout de suite, au détriment des croix de consécration, dont nous allons parler dans un instant. Mais les croix de consécration, le clergé du XVIIIe siècle ne sait tout simplement plus ce que c'est. Et il n'en connaît pas le sens. Alors il découvre vaguement des croix encore vaguement peintes. Et donc il pose là les stations du chemin de croix. Et même encore récemment, hein, entre les deux guerres, par exemple ici à Sainte-Thérèse de Boulogne-Billancourt, l'unique décoration de la nef, c'est son énorme chemin de croix qui ceinture tout l'espace. C'est pas normal. Mais bon, c'est quand même Lambert Ruquy qui est ici à la manœuvre, donc c'est pas laid. Mais ça pose quand même un vrai problème. En effet, le corps de l'Église n'est pas d'abord un corps qui souffre, mais c'est un corps qui engendre. C'est un corps qui conduit à la vie, c'est un corps ressuscité. Mais un corps qui souffre, c'est bien ça qui est pensé, prêché et vécu dans cette période, et encore plus probablement entre les deux guerres. J'ai parlé de croix de consécration, un mot là-dessus pour bien comprendre où est le bug. Donc deuxièmement, les croix de consécration, de quoi s'agit-il? Eh bien ce sont des marques sur les murs, ou plus exactement sur les piliers principaux, quand c'est possible, au nombre de 12, qui viennent consacrer l'espace tout entier, et même le corps architecturale de nos églises. Elle consacre l'architecture comme on oint un corps vivant lors du baptême. L'Église est baptisée, pratiquement, pourrait-on dire. L'Église, c'est-à-dire l'enveloppe architecturale, reçoit l'onction de Saint-Crème, car elle est pensée comme un corps vivant. Et c'est un corps vivant parce qu'elle enfante les fils de Dieu. Des fils d'hommes que nous sommes, nous devenons, en nous agrégeant au même corps, dans un même corps, par la grâce de la communion, nous devenons fils de Dieu. Et c'est l'évêque, donc, qui vient oindre le corps de l'Église lors de sa construction. Alors évidemment, on voit rarement ce genre de rituel, parce qu'on construit rarement des églises. Et donc, il y a des marques sur les murs qui sont les endroits où l'onction a été faite. En voici deux exemples. Ici, très sobre, vous voyez, très ancienne, celle-ci. Hein, et donc, on a remis récemment une petite... un petit cierge, et lors de l'anniversaire de la dédicace de l'Église, si elle s'appelle par exemple Saint-Marc, eh bien le jour de la Saint-Marc, on allume ces petits lumignons pendant la messe. Donc voici un deuxième modèle, cette fois-ci peint, on est au XVe siècle, et c'est un ange, vous voyez, qui porte la croix, qui a reçu l'onction de Saint-Crème. En vérité, le clergé avait complètement oublié cet usage, et cette signification, sauf en Allemagne. Et donc, c'est sans problème qu'ils ont disposé à la place les stations du chemin de croix. D'où l'hésitation, d'ailleurs, entre 12 ou 14 stations. Car les croix de consécration, il n'y en a que 12, comme les 12 apôtres, colonnes de l'Église. Le symbole est très clair. C'est ce qu'on voit ici, à propos des 12, donc, 12 stations, 12, non pas 12 stations, mais 12 apôtres, colonnes de l'Église. C'est ce qu'on voit ici à Rome, à Saint-Jean du Latran. En 1650, on confie à Borromini de reconstruire tout l'intérieur de l'édifice. Il ne va garder que le squelette. Borromini a voulu privilégier cet aspect de l'Église, corps architectural, qui est un sacramental pour l'Église comme assemblée des fidèles. C'est-à-dire le corps architectural devient efficace pour faire communier l'assemblée des fidèles dans une agrégation au corps du Christ. Alors, il y avait évidemment, avant que Borromini n'intervienne, il y avait une basilique qui avait un peu cette forme-là, hein, si vous voulez, comme ici on est à Sainte-Sabine. Elle avait un peu cette forme-là, elle commençait à devoir être restaurée, et donc le pape a décidé, au lieu de refaire quelque chose comme Sainte-Sabine, de faire quelque chose de tout à fait nouveau. C'est la raison pour laquelle il a demandé à Borromini. Et donc, il va fermer, en fait, une arcade sur deux. Il va maçonner une sur deux, ce qui va donner un très gros massif alternant avec un creux. Et c'est donc dans l'épaisseur des pleins, il y a un plein, un vide, un plein, un vide, dans l'épaisseur des pleins, il creuse une niche, et il loge une statue. Alors évidemment, ces zones pleines, remplies, vont considérablement renforcer le corps architectural de l'Église. Mais il y a ainsi 12 massifs qui sont équipés d'alcôves, de loges, dans lesquelles on trouve les 12 apôtres. On sent vraiment que ce sont les colonnes de l'Église, des piliers solides, puissants. Je rappelle que Saint-Jean du Latran est la capitale, et la cathédrale, pardon, la cathédrale du pape. C'est pas Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre de Rome, c'est la cathédrale du monde, si on peut ainsi parler. Le pape, lui, comme évêque de Rome, il a son siège à Saint-Jean du Latran. Et même d'ailleurs, au fond de l'église, vous voyez, Borromini a complété l'élégance en faisant une courbe au fond, en cassant les angles, ce qui donne ainsi à la forme générale, quelque chose de plus enveloppant. Donc c'est assez réussi. Et voici les statues qui sont également de lui. Hein. Ici, on a Saint Jean l'apôtre. Deux exemples de croix de consécration contemporaine. Ici, nous sommes à Köln, le couvent des Dominicains. Ils ont entièrement remasterisé, comme on pourrait dire, leur couvent, en y posant des croix de consécration. Les Allemands n'oublient jamais. croix de consécration, qui sont d'une grande dignité, d'une très belle sobriété. En voici un autre, cette fois-ci on est à Saint-François à Vanves, dans le diocèse de Nanterre, une église contemporaine, des années 70-80, brique béton, très, très sobre, très simple, assez élégante, on a mis les croix de consécration dans les piliers porteurs, ce sont des empreintes dans le béton. Ce qui suppose un architecte qui connaisse un peu la tradition de l'Église, ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'il a fait dans le coffrage lui-même ces marques des croix de consécration. Alors faut-il abandonner les chemins de croix sous prétexte qu'il faut remettre en valeur les croix de consécration? Probablement pas, hein, bien sûr que non. Mais maintenant que ça fait partie de nos traditions récentes, il faut les garder. Mais on peut quand même travailler leur forme et notamment leur place dans l'édifice. C'est ce que nous allons voir maintenant. Voici Vence, la fameuse chapelle de Vence, décorée par Matisse. On a une façon de figurer le chemin de croix qui est tout à fait récente. Hein. Qu'un endroit de l'édifice, ici on est dans un bras du transept, soit consacré, on est au fond de la chapelle, pardon, de Vence. Qu'un endroit de l'église soit consacré à la méditation de la passion, il n'y a aucun problème. Hein. Mais que tout le volume de l'église soit un développement de la passion, c'est plus ennuyeux. Ensuite, revenons à l'église de Vanves, déjà vue pour ses croix de consécration. Voici ce qu'ils ont fait comme chemin de croix. Ils ont réuni le chemin de croix à un endroit et lui-même prend la forme d'une croix. Alors c'est un peu dommage parce que c'est couvert d'un vitrage de protection qui rend la photo impossible. Mais donc là vous avez 14 stations qui donnent à méditer. Je vais vous conduire maintenant à Trier pour un autre exemple, Trier en Allemagne, au bord de la Moselle. C'est Trèves donc en français. On a une église là des années 70 qui était une vaste pièce perpendiculaire, un rectangle, très faiblement éclairé, sauf à l'entrée, où se trouve le baptistère, donc il y a un grand vitrail, et un petit oculus au-dessus du sanctuaire, et tout le reste, en fait, est éclairé par l'éclairage artificiel, et des petites fenêtres qui sont au bas des murs, à gauche et à droite. Et entre ces fenêtres, il y a le signal d'un chemin de croix. Vous voyez, où on voit les petits cierges, et voici de plus près ce que ça donne. Vous voyez, on voit dans le relief d'une pierre une croix de consécration avec le cierge de la dédicace. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette même croix signale les stations du chemin de croix qui sont en dessous. Dans la fenêtre, il y a un vitrail, et chacune de ces fenêtres, c'est une station. Une des 14 stations. Ici, par exemple, vous avez le couronnement d'épines, et ici, la station Sainte-Véronique. C'est quand même très bien trouvé, c'est assez astucieux et assez original. Nous finissons par un chef-d'œuvre à Saint-Sénery, dans l'Orne. Là-bas, on a une abbaye du XIe siècle, détruite en 903, rebâti en 1125, et le chœur est peint au XIVe et au XVe siècle. Et puis, au XXIe siècle, Christian Malézieux est venu poser dans la nef que voici. Vous voyez, vous avez une nef au fond avec un très grand chœur, une croisée, et là nous sommes dans la nef qui a été entièrement restaurée, couverte de chaux, c'est très bien fait. Et Christian Malézieux donc installe un chemin de croix très étonnant, très filiforme, tout en longueur, tout en finesse, c'est le cas de le dire, hein, mais très présent, sur un mur parfaitement vide, lissé et bien chaulé. Et voici ce qu'il donne. Alors ça permet une méditation légère, comme le matériau l'est, et cependant très puissante. C'est paradoxal, mais c'est remarquablement fait. Voici par exemple, à nouveau l'ensemble, vous voyez, avec la croix très très fine qui vient juste fermer, sceller côté sanctuaire le chemin de croix. Donc une croix victorieuse là aussi. Donc voici une station, une des stations, c'est probablement quand le Christ se fait aider dans le portement de la croix. Et voici la fermeture du tombeau. Des choses vraiment remarquables. Et c'est sur cette dernière photo que je vous salue et vous dis à la prochaine fois, probablement à nouveau sous la forme que nous avons cette fois-ci, donc entièrement en numérique. J'espère que la chose ne vous fatigue pas trop, c'est évidemment un petit peu plus difficile à suivre, mais vous voyez qu'on va y arriver quand même. Voilà, à bientôt pour notre chapitre suivant qui parlera du Christ Sauveur.